Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
La science n'est pas longtemps passive, elle devient active, elle intervient. Nous finirons par intervenir, par modifier ce DNA.
Marier les hommes de talent à des femmes de talent, de même caractère physique et moral qu'eux-mêmes, on pourrait, génération après génération, produire une race humaine supérieure, écrit Francis Galton en 1865, se référant à Darwin. Aucun lien pourtant avec la pensée de l'auteur de l'origine des espèces. Alors du Darwin, de Darwin au darwinisme social jusqu'à l'eugénisme, d'où viennent les malentendus ? Et s'il y en a qui ne confondent pas darwinisme et darwinisme social, ce sont bien les membres de l'équipe des Nouveaux Chemins, Antoine Ravon, Lucie Tardy, Colomba Grossier, Marianne Chassor, avec à la réalisation cette semaine Mydia Portis-Guérin, accompagnée d'Ariane Herbé, aujourd'hui à la prise de son, et celle que vous retrouvez tous les jours à 10h51 pour ces 2 minutes papillons, c'est Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour à vous.
Bonjour Adèle et bonjour à tous. Il sera question tout à l'heure de l'art et de la vie à l'occasion de la parution d'un essai d'Yvon Quignon aux éditions du Temps des Cerises.
Éloge de l'inégalité, quatrième et dernier temps. Après Patrick Savudan, qui est venu lundi se demander si nous souhaitons vraiment l'égalité. Après Jean-Christophe Abramovici, qui mardi a philosophé dans le boudoir, en compagnie du marquis de Sade, sur la domination du sexe fort. Et après Frédéric Regard, qui hier vous a parlé sous le regard noir de Big Brother dans 1984, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur de philosophie à l'université Paris 1, Jean Gaillon, spécialiste de l'histoire de la biologie contemporaine et l'auteur de Darwin après Darwin, une histoire de l'hypothèse de sélection dans la théorie de l'évolution, pour réfléchir sur la mal nommée loi du plus fort dans le darwinisme. Bonjour à vous Jean Gaillon.
Bonjour Adèle Van Rett.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor. Aujourd'hui, nous allons parler du darwinisme social et des problèmes qui y sont liés. Le darwinisme social est une doctrine politique reposant sur le principe de « survie du plus apte », énoncé pour la première fois par le biologiste, mais surtout économiste Herbert Spencer, que Darwin n'aimait pas beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi. Avant de se pencher sur la mauvaise interprétation qu'en donne Spencer, rappelons un peu de mots en quoi consiste la sélection naturelle. Elle tient en deux principes. Numéro 1, la préservation des variations favorables dans la lutte pour la vie. Et numéro 2, le rejet des variations préjudiciables. Or, en résumant le darwinisme par l'expression très approximative de survie du plus apte, Spencer commet l'erreur terrible de prendre le darwinisme pour un idéal à conquérir.
La sélection naturelle agit exclusivement au moyen de la conservation et de l'accumulation des variations qui sont utiles à chaque individu dans les conditions organiques et inorganiques où il peut se trouver placé à toutes les périodes de la vie. Chaque être, et c'est là le but final du progrès, tend à se perfectionner de plus en plus relativement à ses conditions. Ce perfectionnement conduit inévitablement au progrès de l'organisation du plus grand nombre des êtres vivants dans le monde entier. Mais, pourra-t-on dire, si tous les êtres organisés tendent ainsi à s'élever dans l'échelle, comment se fait-il qu'une foule de formes inférieures existent encore dans le monde ? Comment se fait-il qu'il y ait dans chaque grande classe des formes beaucoup plus développées que certaines autres ? Pourquoi les formes les plus perfectionnées n'ont-elles pas partout supplanté et exterminé les formes inférieures ? En effet, la sélection naturelle ne comporte pas nécessairement un développement progressif. Elle s'empare seulement des variations qui se présentent et qui sont utiles à chaque individu dans les rapports complexes de son existence. Si cet avantage n'existe pas, la sélection naturelle n'améliore que fort peu ses formes et elle les laisse pendant des périodes infinies dans leurs conditions inférieures actuelles.
Jean Gaillon, si comme le dit Darwin dans l'extrait de l'Origine des espèces que l'on vient d'entendre interprété par le comédien Georges Clès, la sélection naturelle n'implique pas l'élimination des formes inférieures, alors l'expression même de loi du plus fort, de survie des plus aptes, telle qu'elle va être mise en scène par Spencer, est un contresens.
Oui, mais je commencerai par récuser totalement l'usage d'expressions comme inférieur et supérieur à propos des animaux ou des plantes. C'est un vocabulaire qui est très profondément ancré et on a longtemps classé les formes vivantes dans les grands groupes, les animaux, les plantes, en supérieur, inférieur. Je crois que d'un point de vue darwinien, en dépit de toute l'intelligence de la citation que vous venez de donner, il y a une forme d'expression qui n'est pas acceptable, car pour un darwinien, il n'y a pas de ligne privilégiée du progrès. Il y a un très grand nombre de lignes vivantes qui chacune s'améliore relativement à ses conditions d'existence. Et en ce sens-là, il n'y a pas de raison de dire que les êtres humains soient supérieurs aux chimpanzés bonobos ou les chimpanzés bonobos aux bactéries à leur
manière.
Mais
Darwin parle de formes inférieures.
Oui, ouais. Il en parle.
On vient de l'entendre.
Mais je pense que la leçon de Darwin pour ses successeurs, c'est justement de ne plus utiliser ce langage-là. On est plus fidèle à Darwin en n'utilisant pas ce langage-là qu'en l'utilisant. Alors, évidemment, ce qu'on voulait dire, c'est qu'il y a des organismes qui sont plus complexes. Voilà. Mais est-ce que des organismes plus complexes sont mieux adaptés? C'est pas du tout évident. Le darwinisme n'est pas une question d'esthétique, hein. C'est une question de survie d'efficacité dans des conditions d'existence données. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de supériorité, d'échelle de supériorité ou d'infériorité absolue.
Mais l'expression même de loi du plus fort, de survie du plus apte, elle vient de Spencer et non pas de Darwin.
Alors, survie des plus aptes, elle vient de Spencer, mais Darwin l'a reprise dans les dernières éditions de l'Origine des espèces, parce qu'il constatait qu'elle était mieux comprise. Survivance, alors, évidemment, survivance des plus aptes, je ne suis pas sûr que Darwin et Spencer le comprennent de la même manière. Pour Spencer, il y a une échelle, hein, c'est la survivance d'un type plus apte. Pour Darwin, ça veut simplement dire que les organismes dans une espèce donnée sont plus ou moins ceci, plus ou moins cela, que ça leur confère une plus ou moins grande probabilité de survie et de reproduction, et à ce moment-là, c'est un comparatif, c'est pas un superlatif. On peut pas faire dire à Darwin qu'il n'y a pas d'individu qui soit plus ceci ou plus cela. On est plus ou moins grand. Et ceci vous confère une plus ou moins grande probabilité de survie et de reproduction. Ça c'est comme l'a dit le merveilleux jeune homme que vous avez fait parler tout à l'heure. J'ai trouvé ça extraordinaire,
hein. Motorsport Gigantoraptor. C'est un YouTuber que je vous recommande de regarder.
Je termine. Mais bon, bref, pour Darwin, c'est comparativement, c'est pas superlativement qu'il y a un type plus fort. Mais sur ce garçon, je trouve ça extraordinaire. Comme vous le voyez à mes cheveux blancs, j'arrive pas très loin de la retraite. Néanmoins, quand il y a 30-40 ans, quand j'ai commencé à travailler sur l'évolution et sur Darwin, on peut pas imaginer cet événement à la radio ni dans une école. La conception darwiniste de l'évolution était quelque chose de considéré d'abord comme non scientifique par la plupart des gens, sauf quelques spécialistes, et puis d'autre part comme un sujet en quelque sorte sale. C'est extraordinaire d'entendre ça aujourd'hui, c'est...
Eh ben là, il y a toute une série de vidéos qui proposent, donc je vous conseille d'aller en ligne. Alors, voilà. Si avant d'en venir à aux déformations des propos de Darwin, par le darwinisme, notamment social, mais pas seulement, Spencer, on va évoquer d'autres figures, essayons d'être le plus clair possible sur ce qu'est cette théorie darwinienne de l'évolution. D'abord, et sur le principe même de sélection naturelle. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que la sélection naturelle n'implique pas forcément, ça vous l'avez dit, la sélection des plus forts. La sélection naturelle est une sélection qui va sélectionner selon certains critères qui ne sont pas forcément ceux de l'aptitude, de la force physique du plus fort, pour le dire rapidement.
Alors l'aptitude, oui, si on entend par là une valeur adaptative par rapport à un milieu donné, oui, mais plus fort, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement connoté. C'est une notion extrêmement hiérarchique et en outre extrêmement violente. Darwin a souvent insisté là-dessus quand il utilise une notion comme celle de lutte pour l'existence ou lutte pour la vie. Oui. C'est pareil parce qu'il a utilisé les deux conceptions. Il dit, écoutez, bon, bah, dans certains cas, oui, il y a des affrontements entre les individus dans une espèce. C'est particulièrement le cas dans la sélection sexuelle, dans certaines formes de sélection sexuelle. Bon, d'accord, mais la plupart du temps, c'est pas de ça qui s'agit. Il s'agit de caractères souvent souvent de petites différences infinitésimales, une résistance à la maladie, une meilleure adaptation à la sécheresse pour une plante, et puis ce sont des choses qui vont pas se traduire par des combats entre les individus, mais par le fait qu'il va y avoir une sorte de lutte quasi économique et que certains certaines variations, si elles sont héréditaires, eh ben vont se transmettre à la descendance.
Et surtout que cette lutte ne se fait pas tant entre eux, entre les organismes eux-mêmes, qu'entre eux. Elle naît de l'interaction aussi entre eux, un organisme ou une forme de vie, et le milieu dans lequel elle vit.
Absolument, c'est ça qui compte. Alors chez Darwin, le terme anglais, c'est compétition. En français, c'est concurrence, mais les biologistes disent aujourd'hui compétition pour lutte pour l'existence. Cette compétition pour Darwin, elle est exclusivement ou essentiellement entre individus, pas entre groupes. C'était un très très grand débat d'ailleurs dès son temps. Hein. Le co-découvreur de la sélection naturelle, Alfred Russel Wallace, lui, considérait qu'il y avait place aussi pour une notion de sélection entre des groupes. Voilà.
La lutte pour l'existence résulte inévitablement de la rapidité avec laquelle tous les êtres organisés tendent à se multiplier. Tout individu qui, pendant le terme naturel de sa vie, produit plusieurs œufs ou plusieurs graines, doit être détruit à quelque période de son existence ou pendant une saison quelconque, car autrement, le principe de l'augmentation géométrique étant donné, le nombre de ses descendants deviendrait si considérable qu'aucun pays ne pourrait les nourrir. Aussi, comme il n'est plus d'individu qu'il n'en peut vivre, il doit y avoir, dans chaque cas, lutte pour l'existence. Soit avec un autre individu de la même espèce, soit avec des individus d'espèces différentes, soit avec les conditions physiques de la vie. Bien que quelques espèces se multiplient aujourd'hui plus ou moins rapidement, il ne peut en être de même pour toutes, car le monde ne pourrait plus les contenir. Il n'y a aucune exception à la règle que tout être organisé se multiplie naturellement avec tant de rapidité que, s'il n'est pas détruit, la Terre serait bientôt couverte par la descendance d'un seul couple. L'homme même, qui se reproduit si lentement, voit son nombre doubler tous les 25 ans. Et à ce taux, en moins de 1000 ans, il n'y aurait littéralement plus de place sur le globe pour se tenir debout.
Il n'y a aucune noblesse dans la pauvreté. La vie m'a vu riche à millions et elle m'a vu pauvre à pleurer. Et je choisis chaque fois de vivre richissime. Ouais. Parce que lorsque j'ai plein de trucs, quand je dois faire face aux problèmes, j'arrive à bord d'une magnifique limo avec un costume à $2000 sur le dos et au poignet une foutue montre en or de plus de $40,000. Oh, allez, essayez de l'attraper. Attaquez-le.
Enfoiré, ça va pas.
Faites preuve de férocité. Faites preuve de ténacité.
Ouais.
Votre téléphone doit devenir une arme de guerre.
Ouais.
Envoyez-moi cette mise en marché sur orbite.
Connaissez-vous le film Le Loup de Wall Street, Jean Gaillon, dont on entendra un extrait. Donc vous voyez comment le personnage de Leonardo DiCaprio incarne cette supériorité sociale d'un individu qui est pour le coup en faveur d'une position la plus élevée possible sur l'échelle sociale, avec un discours extrêmement guerrier, extrêmement belliqueux, qui semble appliquer, alors c'est là où j'aimerais qu'on en vienne, appliquer de manière complètement erronée à la société cette lutte pour l'existence que Darwin décrit au sein de la nature.
Oui, alors l'une des raisons à l'opposition féroce au darwinisme dans certains secteurs de la société contemporaine, c'est justement ça. C'est l'idée que la sélection naturelle, c'est la loi du plus fort. La loi du plus fort, c'est immoral, donc il faut le contrer. Les deux plus beaux exemples que j'en connaisse, c'est les querelles politiques sur l'enseignement de l'évolution aux États-Unis dans les années 1920. Les gens, il y avait quand même un candidat qui a été trois fois président. Bryan, qui a été trois fois candidat aux élections présidentielles aux États-Unis, candidat démocrate, qui a conduit la lutte contre l'enseignement de l'évolution. Et son argument principal, c'était que, au fond, la théorie de la sélection naturelle est une théorie qui, fait l'apologie des rapports de force, des affrontements des nations, etc. Donc c'était pour lui immoral. Et d'ailleurs, c'est toujours pour... Je pense que c'est la raison fondamentale pour laquelle des gens sont créationnistes aujourd'hui. C'est pas tellement une affaire de connaissance, c'est que ça leur semble immoral. Bon. Le deuxième exemple, c'est Hitler. Alors là, c'est dans l'autre sens. C'est que Hitler, justement, aimait beaucoup Darwin, mais aussi Galton et toute la littérature darwinienne, parce que pour lui, effectivement, la loi du plus fort, c'est ce qui doit régner. Voilà. Donc il y a quand même une base historique sérieuse à cette allégation. Simplement, il se trouve que le darwinisme de Darwin et puis le genre de science qui a été élaboré sur cette base, c'est pas de ça que ça parle.
Et pourtant, Darwin lui-même est revenu, donc Origine des espèces en 59. En 1871, il publie La descendance de l'homme, ou La filiation de l'homme, selon des traductions plus récentes, dans lequel il expose ce qu'on va appeler son anthropologie sociale. C'est-à-dire qu'il montre que dans la société, la lutte pour l'existence ne revêt pas les mêmes formes que dans son expression naturelle. Et malgré la publication de cet ouvrage, le malentendu a persisté.
Oui, et alors ce qui est remarquable, c'est que dans La descendance de l'homme, lorsqu'il en vient à dialoguer avec ce qu'on n'appelait pas encore les eugénistes hein, dans les années 60, puisque le mot 1860, puisque le mot n'existe pas, mais il commence à dialoguer avec un certain nombre de gens, comme son cousin Galton, comme un journaliste qui s'appelait Gregg, etc. Un certain nombre de gens qui disaient, écoutez, bon, la sélection naturelle ne marche plus dans l'espèce humaine, donc au fond, il faut faire de la sélection artificielle parce que notre médecine, notre éducation, au fond, permet un certain nombre d'inaptes de proliférer, d'arriver à l'âge de reproduction, et en quelque sorte de submerger la société. Et alors on se dirait, bah là, Darwin va dire, bah, je ne peux pas ne pas être d'accord. Effectivement, la sélection naturelle, ça prend une forme très particulière, les relations de compétition prennent une forme très particulière chez l'homme. Et il y a ce texte que vous mentionnez, où on se dit, il va basculer vers l'eugénisme, et puis il finit par se retirer. Il se retire pour une raison qui dit oui, mais au fond, procéder ainsi, ce serait aller contre le sentiment de sympathie qui est la base du sens moral chez l'homme. Alors je ne suis pas sûr que c'est par gentillesse qu'il ait dit ça, ou comme Patrick Thore l'a dit, parce qu'au fond il était du bon côté. En fait je pense que Darwin d'un point de vue social était extrêmement conservateur, il appartenait à une sorte de capitalisme agraire et financier qui n'a pas manqué de défendre de manière dans des correspondances. Donc c'est pas par gentillesse qu'il a dit ça, c'est parce qu'il avait une théorie de l'origine de l'homme et de ses facultés morales et mentales, et dans ce cadre, une théorie de l'origine du sens moral qui reposait justement sur le sentiment de sympathie qui a des bases, au fond, dans l'évolution d'espèces, d'un grand nombre d'espèces animales. Et donc, aller contre ce sentiment quasiment inné de sympathie entretenu par les relations des enfants et des parents, etc., etc., ça lui semblait extrêmement dangereux pour l'avenir de l'espèce humaine. Donc, c'est le vrai Darwin. C'est un Darwin qui pense et dit, au fond, si on va dans ce sens-là, on va ruiner la base de la sociabilité. C'est pas parce qu'il aimait vraiment les handicapés, les faibles et tout ça. Je crois que c'était pas tellement son souci. C'était un penseur d'une froideur absolument extraordinaire, et la compassion, c'était pas exactement son genre.
Mais surtout, peut-être ce qui différencie Darwin alors Galton, vous avez prononcé son nom à plusieurs reprises, hein, celui qui effectivement va être en faveur d'une forme d'eugénisme, c'est que Darwin montre bien dans la descendance de l'homme que la sélection naturelle n'est plus, au stade de l'évolution où nous en sommes, la force principale qui gouverne les groupes humains. C'est-à-dire qu'il montre que la civilisation elle-même, de par cet instinct de sympathie dont vous parlez, a été le produit de l'évolution et que désormais c'est la civilisation qui, parce que c'est un résultat naturel, règne et doit décider, finalement, doit opérer comme un principe de sélection naturelle. Et donc, en ce sens, l'interventionnisme n'a aucun sens.
Oui, alors là, il faudrait... vous avez fait allusion au darwinisme social, mais il y en a plusieurs formes. On peut dire, au sens large, l'eugénisme, c'est une forme de darwinisme social. En un sens strict, ça y est complètement opposé. Alors... Au sens strict, le darwinisme social, si vous me permettez d'en dire un mot...
Ah, je vous en prie, dites-nous alors, qui. Le sens strict, c'est qui, c'est voilà. Spencer?
Alors, ça a été introduit par un illustre inconnu en 1880, et puis après on a dit c'est Spencer et ça correspondait bien. Alors, le darwinisme social, sensu stricto, comme on emploie le mot depuis, à peu près un siècle, c'est l'idée selon laquelle, au fond, l'évolution biologique a été un progrès dans d'immenses lignées vivantes du fait de la sélection naturelle. Donc la sélection naturelle a été un facteur de progrès. Elle a amélioré toutes sortes d'espèces dans les conditions où elles vivent. Bon, alors comme le darwinisme social, à ce moment-là, consiste à dire, bah, puisque c'est bon dans la nature, appliquons-le aussi à la société. Et la transposition, c'est l'idéologie du laisser-faire. Chez Spencer, c'est pas la loi du plus fort. Je pense que ça n'existe pas beaucoup chez lui. C'est plutôt l'idée que c'est une lutte contre l'emprise de l'État. C'est l'idée que dans les relations politiques, dans les relations sociales, etc., il faut au contraire laisser chacun chercher son intérêt pour le plus grand bien de tous. La philosophie qui est derrière, c'est celle de l'utilitarisme de John Stuart Mill. Hein. Chacun pour soi et tout le monde en profitera. C'est ça le
repris
vrai.
Repris par Hayek ensuite.
Exactement. C'est exactement ça. C'est toute cette lignée d'une pensée
libertarienne.
Libérale économique. Peut-être que libertarienne, je ne sais pas. Bon, voilà. Bon. Et puis alors, vous avez darwinisme social au sens large, ça veut dire, au fond, c'est toute forme de pensée qui prend appui sur l'évolution et sur Darwin pour parler de la société. Voilà. Alors, l'eugénisme, c'est exactement le contraire, parce que l'eugénisme consiste à dire, justement, la sélection naturelle a produit des merveilles dans l'évolution, et en particulier dans l'évolution de l'espèce humaine. Maintenant, elle a produit un être culturel, l'homme, chez qui se sont développées d'autres formes de compétition qui font que la sélection naturelle ne marche plus. Alors pourquoi elle marche plus ? Bah la médecine par exemple. Hein, voilà. Pourquoi ? À cause des guerres, des guerres interminables entre les grandes puissances européennes. C'est ce que Haeckel appelle la sélection militaire. Hein. À cause de la sélection sociale, donc qui consiste. Alors, c'est une totale absurdité. C'est pas vérifié, mais ça consistait à dire, au fond, les classes supérieures se reproduisent plus, les classes inférieures, j'utilise ce mot, mais c'était mot utilisé, elles se reproduisent beaucoup, ça va pulluler, donc les banlieues vont envahir le centre des villes, et puis la race va dégénérer. Voilà. Alors, l'eugénisme, ça consiste à dire... La race, la classe, enfin, je crois qu'on confondait un petit peu tout ça. Bon. Alors, la sélection naturelle ne fait plus son œuvre, mais ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il faut limiter, mais par d'autres moyens, par une sélection artificielle, en contrôlant les mariages, en restreignant la capacité des moins aptes à faire des enfants, et en donnant, par exemple, des allocations familiales à la classe moyenne supérieure, disons. Voilà. C'est ça l'eugénisme. Hein. Donc l'eugénisme, en ce sens, ne fait plus confiance à la sélection naturelle. Alors que le darwinisme social, c'est un suspensérien, au contraire, il fait excessivement confiance.
Mais Darwin lui-même a pointé cette évolution, non pas celle d'un interventionnisme nécessaire, mais il a bien montré que la sélection naturelle avait travaillé à son propre déclin.
Ah ben il a donné, et qu'elle était remplacée
par l'éducation, par effectivement la médecine.
Vous avez raison, dans la descendance de l'homme, il a comme les bras qui en tombent, il dit ils ont raison, mais il ne faut pas pour autant développer une telle politique parce qu'elle sape les fondements même de la sociabilité humaine. C'est extrêmement curieux, hein,
C'est-à-dire qu'il tient à ce maintien de la sociabilité humaine au nom de quoi ? Au nom de son évolution naturelle au sein de la
oui,
sélection ?
Oui, parce qu'il pense... Enfin, il y a une théorie extrêmement complexe de l'origine du sens moral, mais le point de départ, c'est ce qui ancre notre sociabilité, au fond, dans l'évolution dans l'évolution animale, c'est, au fond, les relations consistant à donner des soins aux enfants, à s'en occuper, qui peuvent paraître a priori altruistes, mais Darwin le dit, si on s'occupe de ses enfants, on s'occupe, d'un point de vue évolutionniste, on s'occupe de sa lignée. Et puis, la sympathie qui est au cœur de relations coopératives, altruistes, il n'utilisait pas le mot, mais enfin, c'est bien ça que ça veut dire, dans les groupes humains, ça concourt à leur conclusion, à leur cohésion. Donc, si on sape ça, il dit, on ne sait pas où on va. Donc, il vaut peut-être mieux, finalement, admettre de charitablement assister les plus pauvres, admettre qu'il y ait des malades, des handicapés, et puis, continuer à tous vivre ensemble. C'est ça, son idée.
Mais du coup, en prenant en compte cet instinct, parce qu'il parle quand même d'instinct en matière de sympathie. Oui. Est-ce qu'il ne tombe pas dans ce qu'il voulait dénoncer par ailleurs, une forme d'essentialisme ? L'homme est doté de cet instinct, donc nous devons le respecter ainsi.
Oui, vous pouvez dire ça, oui, mais enfin, c'est notre bagage, il faut en tenir compte aussi. Voilà. Essentialisme, consensualisme, oui, peut-être, oui. Mais enfin, là, c'est franchir la limite de la philosophie et poser à Darwin des questions qui ne se posaient pas, là, voilà. Oui.
L'homme, en général, ne reste pas longtemps au rôle de spectateur. La science n'est pas longtemps passive, elle devient active, elle intervient. Nous finirons par intervenir, par modifier ce DNA. Enfin, quand je dis nous, ce ne sont pas les biologistes, mais ce sont les chimistes qui finiront bien par modifier ce DNA. Et déjà, ils ont commencé à le faire. Car en 1928, le biologiste anglais a fait, sans le savoir, une modification de DNA. Il a transformé le patrimoine héréditaire d'une certaine race de microbes en le soumettant à l'action de microbes tués d'une autre race. Et de cette expérience, on a dit que c'était un grand événement, un des plus grands événements de l'histoire de la biologie. Je crois qu'on peut même aller jusqu'à dire que c'est un des plus grands événements de l'histoire de l'homme. Car c'est la première fois qu'on a touché à un patrimoine héréditaire, qu'on a touché à la spécificité d'un DNA. Par un moyen ou par un autre, les chimistes finiront par modifier le DNA. Ils feront une sorte d'industrie du DNA, comme on fait l'industrie des matières plastiques. On fera des super DNA. On finira par falsifier le DNA naturel, par le frelater en y introduisant des molécules étrangères. Et alors vous voyez tout ce que cela ouvre d'espoir, de perspective pour l'homme, et aussi, disons-le, d'inquiétude.
I believe in evolution. She made a monkey out of me. I believe in evolution. She made a monkey out of me. She got me loving bananas. Lord knows I climb those trees. Look at here. I monkey climb. The more you see the monkeys behind. Just like people. Ego tripping all the time. Monkey see, monkey do. When you in love, act like a goddamn fool. I believe in evolution.
Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance, il est 10h28, I believe in evolution, c'est Mighty Mo Rogers qui le chante, c'est Darwin sans doute qui le dit, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui, le quatrième et dernier temps de notre série consacrée à l'inégalité. Et pour l'occasion, c'est le professeur de philosophie à l'Université Paris 1, Jean Gaillon, qui vient nous en parler. Jean Gaillon qui est spécialiste de l'histoire de la biologie contemporaine. Jean Gaillon, avez-vous reconnu la voix de Jean Rostand ? C'est le biologiste Jean Rostand, c'était en 1962 dans l'émission Aux frontières de la vie.
Je n'ai pas reconnu la voix, mais j'ai reconnu les propos.
Qui parlait alors de DNA ? Ouais. Je ne sais pas pourquoi il disait DNA et non pas ADN.
C'est assez curieux parce qu'aujourd'hui on dirait soit ADN, ça parlerait français, ou DNA, puisque font tous nos savants parlent à moitié français, à moitié anglais maintenant.
En tout cas, il date cette intervention de l'homme dans le registre de la DNA, dit, en 1928 par accident, comme étant un des plus grands événements dans l'histoire de l'humanité.
Alors ça, c'est vraiment remarquable parce que on peut certainement pas taxer Jean Rostand d'avoir été un eugéniste au sens traditionnel. Hein. Bon, voilà, c'est-à-dire contrôler la reproduction des gens au regard de leurs notes aux examens ou de leurs feuilles de salaire. Hein. Voilà, c'est certainement pas ça. Bon, mais Jean Rostand, bon, bah, c'est le savant qui a introduit, qui a le plus contribué à introduire la génétique en France, à une époque où personne ne voulait en entendre parler. Il a publié des ouvrages de vulgarisation qui ont eu un immense retentissement. Et là, on le voit apparemment beaucoup plus tard, hein, sans doute, quand il était plus âgé, ben, prendre la défense, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'eugénisme, mais enfin, bon, bref...
Il parle d'inquiétude quand même, hein, voilà. Pas de l'apologie non plus.
Il faut, enfin, ce qu'il dit, il fait référence à quoi? Je crois qu'il faut le dire peut-être pour l'auditeur, oui. C'est un petit peu cryptique. Hein. 1928, c'est des expériences d'un médecin physiologiste qui s'appelait Griffith, des transformations de pneumocoque et qui a constitué, vu qu'il y avait une sorte de substance qui, probablement en passant d'une bactérie à l'autre, lui conférait des pouvoirs qu'elle n'avait pas. Et puis, ceci a été repris 20 ans plus tard, et c'est là qu'on a découvert cette molécule, c'était l'ADN. Donc, il se trompe un petit peu de date, mais c'est une phase dans cette histoire. Et là, ce qu'il nous dit là, écoutez, bon, il nous dit, on a accès aux briques fondamentales de notre hérédité. Il faut s'attendre à ce qu'on développe beaucoup de connaissances là-dessus et des capacités d'intervention. Et ça, c'est extrêmement moderne, parce que même aujourd'hui, ça demeure en grande partie impossible quand on parle de l'homme, mais il ouvre au fond une boîte de Pandore qui consiste à dire, avec les technologies génétiques et surtout de biologie moléculaire que nous avons, nous allons pouvoir intervenir sur cet ADN. Et ça se produira, ça sera simple. On rencontrera des difficultés techniques qui seront sans doute monumentales, mais ça se produira et ça produira de grandes questions de société. Et je vous dirais, moi qui ai passé beaucoup de temps au cours de ma vie à analyser les idéologies eugénistes, je vous dirais, quand on en arrive là, j'hésite un petit peu, je vois pas effectivement pourquoi on n'utiliserait pas des moyens techniques qui nous permettraient de rectifier des petites erreurs, de faire un peu mieux. Je vous prends un exemple. S'il y a quelque chose qui a un enracinement profond dans notre matériel génétique, c'est nos capacités immunitaires. Alors, mais par exemple, on était capable d'améliorer, de bricoler un petit peu notre système immunitaire dans sa base génétique, de telle manière qu'on soit tous résistants à telle ou telle maladie, une maladie infectieuse ou peut-être le sida, en nous mettant dans la situation, par exemple, des quelques dizaines de personnes dans le monde qui, de manière innée, sont résistants au sida. Si c'était possible, si c'était partagé de manière juste, si ça coûtait pas trop cher, si ça avait pas d'effet délétère, à ce moment-là, je me dirais, on serait dans une situation comme celle de la vaccination au 19e siècle. Non seulement il faudrait que ce soit accessible à tout le monde, et je dirais peut-être même obligatoire. Mais il y a beaucoup de si, hein, parce qu'il y a en plus la première question qu'on rencontre, c'est celle des technologies qui n'existent pas aujourd'hui. On est dans le rêve quand on dit ça. Hein. Et c'est de ça que parle Jean Rostand en disant, mais ça soulève des inquiétudes. Évidemment, ça soulève des inquiétudes énormes.
Mais est-ce qu'on ne peut pas envisager l'eugénisme comme étant la suite logique finalement du darwinisme, ou assez cohérent avec Darwin lui-même quand il dit qu'il y a un moment où la civilisation a remplacé la sélection naturelle, l'eugénisme étant conçu comme l'intervention de l'homme au sein même de son patrimoine génétique, alors quoi de plus logique et naturel en fait qu'il puisse le faire? Il n'y a qu'une forme de morale qui puisse ici restreindre cette action.
Vous êtes avec un philosophe, donc faut pas s'étonner de retomber sur des questions de mots. Est-ce que c'est de l'eugénisme? Bon. Qu'est-ce que c'est fondamentalement que l'eugénisme? Qu'est-ce que ça a été historiquement? C'est l'idée qu'il faut utiliser, il faut contrôler la reproduction des couples humains de manière à, en quelque sorte, infléchir un petit peu la ligne évolutive d'une population. Bon. C'est pas exactement de ça qu'on parle. Là, on en est à parler, au contraire, d'intervention génétique directe sur des individus. Alors, on peut envisager d'ailleurs ce que ça pourrait avoir comme conséquence du point de vue de l'évolution, parce que l'évolution nous rattrape toujours par derrière. Néanmoins, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas mettre en place des politiques restreignant ou favorisant la reproduction des couples. On est dans un eugénisme individuel en un sens très fort. C'est l'intervention génétique sur notre matériel génétique même. Alors, là où ça a quelque chose de social, bah, d'abord, c'est que si on le fait, ça se transmet à la génération suivante. Donc, ça nous engage par rapport aux générations futures. Et puis que par ailleurs, ça soulève d'énormes problèmes de justice sociale. Est-ce que ce sera partagé? Est-ce que ce sera coercitif? Est-ce que c'est des choses de ce genre? Alors on peut appeler ça du nouvel eugénisme, ça a été fait par beaucoup de gens, mais il faut se dire aussi que le mot a quand même beaucoup changé de sens.
Alors comment vous distinguez le nouvel eugénisme de l'eugénisme classique ?
Le nouvel eugénisme, il n'est pas préoccupé d'abord, pas fondamentalement, par l'évolution des populations ou des espèces. Il est préoccupé du phénotype de l'enfant à venir et de ça, voilà. Il n'a pas en tête d'aucune l'évolution du genre humain. Il a au fond l'amélioration, si possible, par des moyens technologiques de l'apparence de l'enfant. Ça se traduit aussi par une vision très très différente quand même d'un point de vue politique. L'ancien eugénisme, ça reposait sur l'idée que la reproduction est une affaire trop importante pour la laisser aux individus. Le nouvel eugénisme, dans sa forme actuelle, on l'appelle aussi l'eugénisme libéral, consiste au contraire à, il s'appuie sur un principe d'autonomie reproductive. C'est à chacun de décider comment il peut et comment il doit se reproduire. Donc c'est une ambiance sociopolitique extrêmement différente. Je pense que ça n'est pas sans danger non plus, hein, parce que au fond, même s'il n'y a plus de coercition politique, l'économie peut nous rattraper. Que se passera-t-il, par exemple, le jour que se passe-t-il même maintenant, lorsqu'on dispose de tests génétiques assez puissants pour dire que des parents ont choisi d'avoir un enfant extrêmement handicapé, demandent ensuite aux assurances de payer. Les assurances, elles disent "Écoutez, vous saviez." Et donc la pression économique, en fait, elle peut être infiniment plus efficace que la pression d'institutions qui contrôleraient les mariages. Dans ce sens que c'est une question très grave.
Il faut que les hommes les meilleurs s'unissent aux femmes les meilleures le plus souvent possible, et le plus rarement possible pour les plus médiocres s'unissant aux femmes les plus médiocres. Il faut aussi nourrir la progéniture des premiers et non celle des autres, si on veut que le troupeau soit de qualité tout à fait supérieure. Et il faut enfin que tout cela se produise hors de la connaissance de tous, sauf des dirigeants eux-mêmes, si justement la troupe des gardiens doit être le plus possible exempte de dissensions internes. Il faudra donc des législations instituant certaines fêtes au cours desquelles nous rassemblerons les promises et les promis, et il faudra également des sacrifices et des hymnes composés par nos poètes convenant expressément aux cérémonies des mariages. Nous laisserons aux dirigeants la question du nombre des mariages, afin que le plus possible ils préservent le même nombre d'hommes, compte tenu des guerres, des maladies, de tous les facteurs de ce genre, et afin d'éviter que la cité ne devienne plus grande ou plus petite. Je pense aussi qu'il faudra faire des tirages au sort sophistiqués, de manière que l'homme médiocre, après chaque union, en rende le sort responsable et non les dirigeants. Quant à ceux des jeunes qui excellent de leur côté, à la guerre ou ailleurs, il faut bien entendu leur accorder des privilèges et toutes sortes de récompenses, en particulier une liberté plus généreuse de partager leur couche avec les femmes, de façon telle qu'en même temps, en vertu de ce prétexte, le plus grand nombre possible d'enfants soit conçu par la semence de tels hommes. Vous parliez de l'institution des mariages, Jean Gaillon. Alors, ce n'est pas un texte de Galton que j'ai lu, qu'on attendrait sans doute quand on parle de l'eugénisme, mais de Platon, dans La République, le livre 5, où Socrate énonce les conditions d'une cité idéale, qui lui-même met en place un système de mariage où les meilleures femmes épouseraient les meilleurs hommes. Tout ça pour dire que cette idée de ce désir de l'amélioration de l'espèce n'a pas attendu ni Darwin, ni ce qu'on appelle aujourd'hui l'eugénisme pour avoir lieu.
Ce texte est passionnant, il est terrifiant aussi, parce qu'il énonce presque plus clairement que l'ont fait tous les eugénistes du 19e et du 20e siècle, ce qui était leur objectif. C'est d'ailleurs pourquoi les eugénistes y sont référés tellement. C'était extraordinaire d'avoir le pouvoir, au fond, en quelque sorte, se justifier en se référant à Platon. Alors, en particulier, l'idée que tout cela se fera à l'insu des intéressés, vous voyez. Bon. Alors, ce texte m'a suggéré il y a quelques années, il y a 2 ans, on a célébré la création des SECOS en France, vous savez, des centres d'insémination artificielle. Bon. Et je me suis permis alors de citer ce texte de Platon en disant, écoutez, en transposant un peu, est-ce que c'est pas, avec les meilleures intentions du monde, ce que vous faites? Et d'ailleurs, peut-être que vos intentions sont bonnes. Parce que, qu'est-ce qu'on fait dans les SECOS? Au fond, des gens viennent qui ont du mal à faire des enfants, parce qu'ils ont des petits problèmes des petits problèmes génétiques. Donc, ils viennent chercher du conseil génétique et éventuellement, on propose une insémination artificielle. Et au fil des années, se sont introduits des critères de plus en plus raffinés qui prennent en considération la possibilité que les inséminations aboutissent par exemple à telle ou telle maladie. On tient compte aussi de la couleur de la peau, on tient compte d'un certain nombre de choses. Il y a des très grands débats pour savoir jusqu'où on va aller. Mais l'une des règles des SECOS, qui est d'ailleurs, que moi je trouve excellente, c'est que justement les parents, une fois la chose, les demandeurs une fois la chose mise en route, eh bien, n'ont pas accès aux critères qui vont déterminer l'appariement. Donc, qu'est-ce qui décide? C'est des experts, c'est des généticiens, des médecins. Et on va se dire, mais en fonction de quoi? Et vous voyez, nous sommes un petit peu dans le schéma de pensée de Platon. Alors, chez Platon, ça a quelque chose d'abominable, parce qu'il s'agit d'entretenir une société de caste. Hein. Bon, voilà. Ici, c'est plutôt l'idée de dire, on va donner aux gens le moyen de faire des enfants qui, si possible, soient le moins malades possible. On va tenir compte éventuellement, par exemple, je souligne, de la couleur de peau, parce qu'on sait que ça pourrait poser des problèmes. Par exemple, pour une femme qui se fait inséminer et dont on ne connaît pas le père, qu'elle est un enfant d'une autre couleur, passer du noir au blanc ou du blanc au noir, ça peut poser des problèmes. Bon, oui, n'empêche qu'il y a une communauté d'experts qui, collégialement, décide dans le secret. Hein, on est dans un même schéma de pensée et on peut se demander ce qu'il arriverait si ça devenait le mode de reproduction de tout le monde. C'est pas du tout impossible. Pas du tout impossible que les sociétés futures se disant au fond qu'il y a tellement de ratés au fond dans la fabrication des enfants que on pourrait s'en remettre pour un certain nombre de questions à des experts qui décideraient de ce qui est acceptable et de ce qui est pas
acceptable.
C'est
ça en fait le problème moral, puisque là pour le coup il s'agit vraiment d'une morale derrière cette question là. C'était pas tant celui de la légitimité ou non de l'intervention de l'homme sur son patrimoine génétique que du fait qu'il se trouve complètement dépossédé de cette faculté de réflexion, qu'il n'a pas la connaissance de ce qui est en train de se passer. C'est remettre son sort ou le sort de son enfant entre les mains d'un expert.
Bon, alors on peut toujours aussi faire confiance aux sociétés modernes pour, traiter ces choses de manière un peu plus éclairée et démocratique. Hein. Voilà, donc il y a toutes sortes de degrés possibles. Hein, entre par exemple des experts qui... à qui, par exemple, on passerait au crible d'une analyse génétique l'ADN du père et de la mère, et puis on leur dirait, qu'est-ce que vous nous conseillez, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors bien entendu, on peut laisser complètement à des experts le choix, mais on peut aussi discuter publiquement des critères, et puis, c'est peut-être pas aussi noir que ça. Néanmoins, c'est quelque chose qui pourrait se produire dans l'avenir, hein. L'extension, au fond, du modèle SECOS à toute la société avec beaucoup plus de critères.
Et ce ne serait pas forcément un problème?
Moi, je pense que ce sera un très grand problème et que ça demandera à être discuté de manière démocratique.
Et une question que nous n'avons pas du tout abordée, on arrive au terme de notre entretien, Jean Gaillon, c'est la question relative aux races humaines. Parce que quand même, l'angle de cette série d'émissions et aujourd'hui celle-ci également, sur la question de l'inégalité, finalement la question de l'égalité ou l'inégalité des races humaines, savoir comment l'histoire même de l'évolutionnisme a pu poser cette question-là.
Ça a été un problème extrêmement, extrêmement grave. Hein. Il suffit de se rappeler, par exemple, que l'un des termes qui était utilisé comme synonyme de sélection, au fond, dans les années qui ont précédé Darwin, et chez Darwin lui-même, et dans le cas lui-même, c'est le mot d'extermination. Darwin, par exemple, discute sans état d'âme de l'extermination d'un certain nombre de peuples de l'hémisphère sud.
Au nom d'une race
Non, il en parle factuellement. Voilà. Il dit c'est comme ça, ça se passe, c'est en train de se passer. Et évidemment, quand on parle d'extermination au XIXe siècle, ça n'a peut-être pas la charge que ça a eu après les camps d'extermination. C'est, bon, oui, certes, mais cette question des races, de la lutte des races en particulier, a été l'une des choses qui a porté la sélection, la théorie de la sélection naturelle, parce que ça. Donc la question des races humaines, elle a toujours été centrale dans, comment dire, l'impact culturel de l'évolutionnisme darwinien. Mais la question qui se pose à ce moment-là, justement, c'est celle de savoir si les races sont en concurrence les unes avec les autres. Et
Darwin affirme une pluralité des races.
Oh, il reconnaît une pluralité des races, mais il reconnaît fondamentalement l'unité de l'espèce humaine. Hein. Et il considère que la question
une
de savoir
espèce,
combien il y a de races est une question extrêmement de convention. Et son explication de l'origine d'ailleurs des différences raciales est quelque chose qui tient plus beaucoup la route aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'extrêmement curieux. Pour lui, le facteur principal, c'était la sélection sexuelle. Hein. Voilà. Bon, mais l'inégalité des races, oui. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par inégalité des races? Alors, en général, il y a deux aspects. Vous avez l'aspect descriptif, c'est-à-dire on place les races sur une échelle, quoi, hein, sur une échelle de valeurs. Darwin n'était pas exempt d'une certaine condescendance, hein, à l'égard de toutes les populations qu'il avait observées, en particulier dans le sud de l'Amérique. Hein. Bon, je crois pas qu'on pourrait dire qu'il était de ce point de vue égalitariste. Il ne croyait pas à une stricte égalité des races, en particulier du point de vue des qualités intellectuelles et morales. Bon. Mais il y a une autre question, c'est l'égalité au sens politique. Comment traite-t-on les gens? Et de ce point de vue, je pense que Darwin, en dépit de son idéologie extrêmement conservatrice d'un point de vue social, a néanmoins quelqu'un qui, toute sa vie, s'est engagé contre l'esclavage. Vous voyez il y a des auteurs qui ont essayé de faire une connexion entre les deux. C'est un petit peu difficile. Néanmoins, on peut dire, sur ce point-là, qui était capital au XIXe siècle, il a pris des positions très fortes. Donc, c'est pas parce que, déjà, je pense, c'est pas parce que vous croyez en l'inégalité des races humaines que vous pensez qu'il faut les traiter de manière inégalitaire. Maintenant, reste la question, si vous me la posez à moi, de celle de l'égalité en un sens descriptif des races humaines. Et là, moi, je partage plutôt une opinion assez répandue, comme quoi, les populations, les êtres humains sont tellement proches dans leur bagage génétique que ça n'a pas de sens d'envisager qu'il y ait des différences raciales si importantes qu'on puisse parler d'égalité ou d'inégalité.
Mais vous maintenez l'appellation de race.
Oh non, moi je ne la maintiens pas. C'est un mot que, même si j'ai beaucoup écrit là-dessus, c'est un mot que je proscris. Je pense que c'est un mot qu'il vaut mieux ne pas utiliser parce qu'il est il pose scientifiquement des questions extrêmement délicates. Il est confus. C'est un mot confus. Hein, et puis d'autre part, c'est un mot qui a été politiquement dangereux depuis plusieurs siècles. Donc c'est un mot dont je pense qu'il vaudrait mieux l'éviter, alors l'interdire comme on a fait en le supprimant par exemple d'un certain nombre de textes fondamentaux dans la République, c'est peut-être un petit peu dangereux parce que si on s'interdit par exemple de dire qu'il ne faut pas discriminer en fonction de l'appartenance raciale, bon, vous voyez les problèmes que ça peut poser dans une société où on utilise tous les jours ces concepts-là. Donc je suis assez réticent sur ce qu'on a fait récemment sur le toilettage des textes fondamentaux. Ça part d'une bonne intention, je ne suis pas sûr que ça puisse avoir les meilleurs effets. Maintenant, ça peut changer les habitudes aussi. Je veux dire, il ne faut pas employer ce mot-là.
Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of mugging around, oh, ooby-doo. I wanna be like you,
hop-de-ooby-doo-bop.
I wanna walk like you,
chip,
talk like you,
choo-choo.
You see, it's true.
Shoo-bidi-doo.
An ape like me,
scooby-dooby-dooby,
can learn to be human too.
What? grand merci à vous, Jean Gaillon, d'être venu nous parler de Darwin, du darwinisme, de l'eugénisme, du racisme aujourd'hui.
Merci pour vos questions et pour votre hospitalité.
C'était un programme bien chargé et passionnant. C'était passionnant de vous écouter. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris 1, que vous travaillez sur l'histoire, la biologie contemporaine, la théorie de l'évolution, génétique, biométrie, et que de vous, on peut lire Darwin et l'après-Darwin, une histoire de l'hypothèse de sélection dans la théorie de l'évolution. C'était paru chez Quimet en 1992, mais vous avez participé au dictionnaire historique et critique du racisme sous la direction de Pierre-André Taguieff. Ça, c'était en 2013 et disponible au PUF.
Now here's your part of the deal, cuz. Laid a secret on me, a man's red fire.
But I don't know how to make fire.
Now don't try to kid me, man cub. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true.
Pour lire Darwin, c'est donc l'origine des espèces. On n'a pas commenté le sous-titre d'ailleurs. Au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Ça aurait été utile d'ailleurs pour la discussion que nous avons eue. Ainsi que la descendance de l'homme. Et puis la vidéo qui a ouvert cette émission, le youtubeur Motosport Gigantoraptor. Vous trouverez toutes les références de ces liens et de ces livres en ligne sur le site des Nouveaux Chemins. Pour l'heure, vous écoutez France Culture. Il est 10h51. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver Géraldine Mesnin-Savoie.
Est-ce que c'est bien les choses que je voyais, que je voulais reproduire, ou est-ce que c'est une chose affective ou un certain sentiment qu'on a des formes qui est intérieur et qu'on veut projeter à l'extérieur?
C'est un sacré dilemme qu'Alberto Giacometti dégage là. Dilemme de la création qui proviendrait soit de la perception de choses extérieures, soit d'un sentiment intérieur et propre à l'artiste. Dilemme qu'il ne tranchera d'ailleurs pas dans la suite de cet entretien qui date de 1953, parlant même d'une confusion entre les deux. Bien dans son dernier ouvrage, le philosophe Yvon Quignot reconnaît lui aussi que l'art résiste à une explication définitive, reprenant la phrase géniale d'Antonioni qui, elle, par contre, est un peu définitive. La beauté n'est pas claire. Et pourtant, cette non-clarté théorique de la beauté n'empêche pas Yvon Quignot d'en faire le centre de ses réflexions et même de sa propre théorie de l'art. C'est un petit paradoxe qui se pose donc là, car si l'art résiste à toute théorie, pourquoi encore en parler en philosophe comme Yvon Quignot dit le faire? Dans son avant-propos, il le dit clairement, et là est l'originalité de son approche, il a envie d'éclairer ce qui n'est pas clair, ce qui est vécu comme inexplicable par la raison, comme l'art, mais sans pour autant forcer l'art à être rationalisé, à être déraciné d'un sol sensible. C'est donc, je cite, en matérialiste intransigeant qui exige que tout phénomène humain trouve son origine dans la vie, qu'il lui soit immanent, qu'Yvon Quignot échappe à l'explication causale de l'art et même à l'idée d'une transcendance théorique de la beauté. À la cause, en fait, il préfère l'origine, l'impulsion mystérieuse de l'art qu'il trouve dans la vie, tout simplement, la vie dans tous ses sens, la vie biologique de la sensation ou encore la vie psychique des désirs. Et il faut aller jusqu'au bout du livre pour découvrir dans un récit personnel qu'Yvon Quignot nous confie que l'art, loin des théories qui en font un mode de connaissance ou une vérité, a tout du mode de vie.
D'accord, alors on le lira jusqu'au bout, Géraldine.
Il faut le lire jusqu'au bout. C'est l'art et la vie, c'est d'Yvon Quignot et c'est paru au temps des cerises.
Un grand merci à vous, Géraldine. Ça donne très envie de lire ce livre. Merci à Jean Gaillon encore avec nous en studio. Merci à tous. L'émission touche à sa fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Demain, ce sera le premier vendredi mystère de l'année. Vous savez, le concept d'émission, je ne connais pas l'identité de mon invité avant d'entrer en studio. Donc, je découvre qui est l'invité, quel est le livre qu'il vient de faire paraître. Il s'agit toujours d'une actualité éditoriale. Et nous discutons ensemble. Je mets à votre place, chers auditeurs, qui derrière le poste, découvrez tous les matins le livre dont il est question au cours de l'émission. Rendez-vous demain à 10h donc. D'ici là, pour écouter cette émission ainsi que toutes celles de cette semaine consacrée à l'inégalité, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture, page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous pourrez aussi télécharger, podcaster l'émission afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et nous vous donnons rendez-vous également sur Facebook et Twitter. Nous attendons vos remarques et commentaires.